Voilà, vous m'entendez. Donc merci beaucoup au groupe de louanges Sabine, Christine et Jacques. J'étais particulièrement encouragé parce que j'ai senti que à plusieurs endroits, ça menait vers le message que je dois donner ce matin. Alors, on va voir une première image. Voilà, j'attends que Rémi mette mon diaporama. Voilà, qu'il est joli ce bébé. Ah, qu'il est joli, hein. Voilà. Alors, quelle est la remarque que vous entendez le plus souvent quand vous allez visiter un couple ami ou un couple de la famille qui vient d'avoir un enfant, qui a quelques mois? Quelle est la remarque que vous entendez souvent? Eh, oui, mais... Ah, c'est Annette la plus proche, mais elle sait de quoi je parle aussi. Alors, ben souvent, hein, c'est tout son père, c'est tout sa mère. Voilà. C'est tout son père ou c'est tout sa mère. Voilà. Et souvent, quand on fait cette visite, voilà, pour la première fois, nous disons nous-mêmes cela. Et parfois, on dit ça même lorsque l'enfant a grandi, qui devient un adolescent, même un jeune adulte. Combien de fois on m'a dit, dans Wavrin, quand je croisais quelqu'un, un vieux de Wavrin, me dit « Ah, c'est tout André Billot. André Billot, c'est mon père. » Voilà. Alors, et généralement, comme j'avais beaucoup de respect pour mon père et que même une certaine admiration, bah, j'étais un peu fier, hein, d'entendre ça. Ah, la fierté de la ressemblance. La fierté de la ressemblance. Et cela m'amène à vous parler d'un ministère que nous avons tous. Personne ne peut dire « je n'ai pas ce ministère ». On a tous un ministère, on a tous, en fonction de nos dons, nos charismes, donc chacun particulier, mais on a tous en commun un même ministère. Lequel? En rapport avec l'introduction que je viens de donner. Ressembler à Jésus-Christ. Ouais, voilà. Ressembler à Christ. Bon, là j'ai mis une photo que j'aime bien, c'est Heidi Baker avec tous ses enfants. Ils sont rayonnants, hein. Ça rayonne. Ils rayonnent de l'amour du Christ. Voilà. Pour ceux qui ont fait, il y a des années, on a fait dans cette église, beaucoup d'années, ouais, le parcours motivé par l'essentiel. Il y a de longues années, donc Jacques et Christine s'en souviennent. Et je ne crois pas que les autres étaient présents. Je ne crois pas. Et donc, ressembler à Christ est cité parmi les cinq grands objectifs du chrétien. Ressembler à Christ. On a été créé pour ressembler à Dieu, et comme Christ est à l'image de Dieu, voilà, on est appelé à ressembler à Christ. Et c'est un ministère commun à tous. Et moi, je me souviens, j'attendais avec impatience cet objectif. Il me motivait. Je trouve qu'il est motivant. Ressembler à Christ est un objectif prioritaire pour nous et c'est la mission principale du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit a pour but de restaurer en nous cette image qu'on avait avant la création, qu'on a perdue. Il veut nous redonner cette beauté originelle. À nous de bien vouloir collaborer avec le Saint-Esprit. Et alors, et je suis content parce que Sabine, tu as fait allusion, tu parlais de la lumière qui resplendit sur nous. Il y a deux passages fondateurs, enfin vraiment, par rapport à cet appel, 2 Corinthiens, je suis allé un peu trop vite sur le deuxième, voilà. 2 Corinthiens 3, 18 et 4:1. C'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour. Et en refléter une image toujours fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement. Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. C'est le ministère que Dieu, dans sa bonté, nous a confié. Nous avons tous ce ministère. Ressembler à Christ. Et il y a un deuxième passage fondateur aussi, Romains 8, 29, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Alors, ressembler à Christ est une grande source de motivation. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça me motive fortement. Il n'y a rien de plus motivant que de ressembler à Christ. Et pourquoi ? Tout simplement parce que je suis amoureux de Jésus. Je l'admire, j'admire tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a souffert pour moi, j'admire son caractère, sa douceur, sa sainteté, sa splendeur, ses soins à mon égard, sa patience, sa tendresse. Bref, je suis son adorateur, donc tout naturellement, la simple pensée de ressembler à celui dont je suis fier, eh bien, me motive terriblement. Ouais. Alors, ressembler à Christ, c'est une grande source de motivation qui nous rend plus légers, qui rend plus léger pour nous l'appel à nous dépouiller de tout ce qui nous pollue à l'intérieur. Vous savez, quand l'amertume frappe à notre porte, ou la plainte, ou la convoitise, ou tout autre sentiment négatif, je me dis, mais si je cède, je vais moins briller. Est-ce que vous raisonnez comme ça? Ah, si je cède à la plainte, à l'amertume, je vais moins briller. Alors non, non, je crie au Seigneur, je demande son aide. Je dis, Seigneur, je veux pas te déplaire, je veux briller. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Jean veut nous dire, certainement dans sa première épître. Voilà, nous savons que lorsque le Christ paraîtra, c'est la version... parole vivante, oui. Voilà, nous serons semblables à lui, car nous le verrons alors tel qu'il est. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Waouh ! Ça fait réfléchir, hein, ce verset. En plus d'être habité par l'appel à ressembler à Christ, on est appelé à porter dans notre cœur cette espérance que cette ressemblance sera pleinement accomplie, achevée, lorsque Christ va paraître et qu'on va le voir face à face. Alors cette espérance me pousse irrémédiablement à la pureté. Un peu comme la fiancée qui veut être la plus belle pour rencontrer son fiancé et qui ne veut surtout pas le décevoir. Amen. Alors voilà pourquoi je pense que le Saint-Esprit m'a poussé à donner ce message ce matin, parce qu'il sait que cet appel est une grande source de motivation pour faire échec à la tentation. Pour faire échec à la tentation. On a tous des tentations, hein. Et aussi pour continuer d'avancer et de rayonner et d'attirer les autres à Christ. Amen. Vous voulez avoir cette source de motivation, alors soyez habité par cette pensée de ressembler à Christ. 2 Corinthiens 4, 6. En effet, le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière jaillisse dans les ténèbres a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Christ. En deux mots, que signifie exactement ressembler à Christ? Attention, on n'est pas New Age, hein, et donc on ne cherche pas à devenir Dieu. Ah, ce n'est pas devenir Dieu. C'est peut-être bon de le signaler, hein, ce mensonge orgueilleux est la plus ancienne tentation de Satan, qui a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Non. C'est avoir le caractère de Christ. C'est avoir le caractère de Christ. Combien de fois on trouve cette invitation dans la Bible, revêtez-vous de Jésus, soyez renouvelés, soyez transformés. Il s'agit plutôt d'une dimension d'habitation que d'imitation. Dieu veut qu'on développe ce type de caractère exposé dans les Béatitudes, dans 1 Corinthiens 13, l'amour, dans la description du fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Être comme Christ, c'est transformer notre caractère à l'image de Christ. Nous devons jamais oublier que notre caractère, Dieu s'intéresse plus à notre caractère qu'à nos œuvres. Ce qui n'est pas un prétexte pour ne rien faire et d'être paresseux. Mais la transformation de notre caractère va nous conduire irrémédiablement au courage de l'obéissance à sa voix. Et à pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Transformer notre caractère sans que nous perdions notre personnalité unique, chacun. Et ça c'est bien. Transformer notre caractère, mais pas notre personnalité. Alors on va se rappeler ce que vous savez, mais peut-être le Saint-Esprit va peut-être vous parler, vous dire, ah, est-ce que vous connaissez les sources, les trois principales sources de transformation de notre caractère? Il y a trois principales sources. Ben oui, la première, on le sait, mais transformée par la vérité, sa parole. Bien sûr. Quand je suis près de la parole, je suis près de Jésus. Jésus est la parole. Sanctifie-les par ta vérité, a dit Jésus. Ta parole est la vérité, dans Jean 17. Toute parole est inspirée de Dieu, dira Paul, pour enseigner, convaincre, corriger. Paul dira encore en Colossiens que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Et Rick Warren, l'auteur du livre « Motivé par l'essentiel » a dit « Je dois la recevoir, la parole, la lire, la sonder, la mémoriser, la méditer. » Je ressens dans l'Église que nous devons veiller à prendre soin les uns des autres et veiller, est-ce que chacun, chacune, nous savons nous nourrir? D'accord? Et si l'un ou l'autre a une difficulté dans ce domaine, mais qu'il en parle, chacun, chacune, nous devons veiller à ce que notre frère, notre sœur, puisse savoir se nourrir de la parole. Alors surtout, surtout, soyons des gens qui se nourrissons. Parfois, c'est pas facile, on a peut-être des combats, partagez vos combats. Et n'accordez pas que les miettes de votre temps à la parole. D'accord? N'accordons pas que les miettes de notre temps. Mais une autre source de transformation, Les relations humaines. Dans l'Église et hors de l'Église. Dans l'Église et hors de l'Église. C'est dans ces relations que le Saint-Esprit va m'aider à percevoir mes défauts et à corriger mes défauts. Dans mes relations, l'importance d'avoir des cœur à cœur, l'importance d'être vraiment en relation dans l'Église, pas être assis puis de partir, ouais. L'importance d'être en relation avec des incroyants aussi. Ouais. Comment exprimer mon amour pour les autres, ma solidarité, mon secours pour les autres, et ainsi manifester le caractère du Christ si je ne suis pas en relation avec mes frères et sœurs? C'est dans cette relation que je vais voir aussi mon besoin de transformation. Ah, ah, celui-là, il m'énerve, ou celle-là, il m'énerve. Ouais. Vous voyez, c'est là que je vais voir mon besoin de transformation. Et une troisième source, transformée par l'adversité, les circonstances adverses, les épreuves. Dieu se sert des problèmes pour nous attirer plus près de lui. Quelqu'un a écrit ceci, c'est quand nous sommes éprouvés que nous apprenons à faire monter vers le Seigneur nos prières les plus authentiques, les plus profondes et les plus honnêtes. Lorsque nous souffrons, nous n'adressons jamais à Dieu des prières superficielles. Et tout à l'heure, ça a été lu. Là encore, j'ai rendu grâce au Seigneur, mais ça a été lu. Ce beau passage de Romains 8, 29. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses. Il est là. Au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Quelle que soit la cause de nos problèmes, aucun d'eux ne peut subvenir sans la permission de Dieu. Tout ce qui arrive à l'un des enfants du Père est filtré par lui, et il a l'intention de l'employer pour notre bien même, même lorsque Satan et ceux qui l'utilisent le destinent à notre malheur. Amen. Alors, ces trois sources de transformation, permettons au Saint-Esprit, hein, vraiment on terminera dans la prière avec ça, de nous sonder. Alors, une très bonne nouvelle, la beauté du Christ n'est pas atténuée par notre fragilité, au contraire. La faiblesse, la beauté du Christ en nous n'est pas atténuée par notre fragilité, au contraire. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Paul nous compare à des vases de terre cuite pour dire notre fragilité, pour souligner notre grande fragilité. Et il dira plus loin, on est confronté à toutes sortes de maux, on nous persécute, mais on se relève, on poursuit notre route, on subit toutes ces épreuves pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse. Ouais. Si extérieurement, là c'est une bonne nouvelle pour les aînés dont je m'approche sérieusement, si notre corps extérieur s'épuise, se détériore intérieurement, nous sommes renouvelés et revêtus de force neuve de jour en jour. Voilà une bonne nouvelle, hein, pour les aînés. Amen. Et là, j'ai mis un visage, est-ce que certains le reconnaissent? Paul Mouton était prêtre à Wavrin. On avait une très bonne relation avec lui. Il venait nous voir dans notre salle. Il a prêché chez nous. Il a rendu témoignage. Et vous savez, jusqu'au bout de sa vie, il était beau. Il était beau. Il dégageait toujours ce sourire malicieux. Ce petit sourire malicieux, nous l'avons connu pratiquement jusqu'à sa mort. Nous l'avons visité chaque année. Et il avait ce sourire, cette beauté intérieure. Voilà. Et pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle, Paul Mouton. Et alors, Paul, il donne une conclusion avec tout ça, avec tout ce qu'on a entendu. Il donne une conclusion magnifique. Vous le trouvez dans 2 Corinthiens 3 et 4. Hein, lisez les deux chapitres, ils sont formidables. Voilà donc pourquoi rien, mais rien ne saurait nous abattre. Waouh, quelle promesse! Rien ne saurait, c'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi rien, puisque je suis appelé à ressembler à Christ, puisque je vais le rencontrer face à face, puisque même si mon corps se détruit, même si on me persécute, rien ne peut enlever la vie de Jésus, rien ne peut empêcher Jésus de de dégager sa beauté sur moi. Amen. Rien, rien, rien ne saurait abattre notre courage. Ah oui, en fait, c'est la parole exacte, c'est abattre notre courage. Voilà. Donc ne perdons pas courage dans notre version. Alors, rayonnons de plus en plus de la beauté du Christ dans nos vies et en Église. J'aime bien cette photo. Elle a 10 ans, déjà. Elle a 10 ans. Elle est belle, cette photo, parce que pratiquement tout le monde est souriant. Si vous regardez bien, je ne sais pas, celui qui prenait la photo peut-être faisait rire tout le monde, mais tout le monde est souriant, et voilà, ça parle de la beauté de l'Église. La beauté de l'Église. Je vous redis ma conviction qu'être habité de la pensée de ressembler à Christ donne des ailes. Vous voulez avoir des ailes? Soyez habité par la pensée de ressembler à Christ. Et pensez à la rencontre qu'on aura face à face. C'est notre destinée. Est-ce que vous y pensez? On y pense? Notre destinée, on va le voir face à face. Et notre transformation sera achevée. Cette conviction nous donne des ailes, nous permet d'avancer malgré les difficultés. Alors que les nuages augmentent, chers amis, nous ne pouvons pas nous permettre de moins briller. Alors que les nuages augmentent, nous ne pouvons pas nous permettre de moins briller, de moins refléter la beauté du Christ. Ne négligeons pas les sources de transformation. Y a-t-il une faille dans ma nourriture spirituelle? Y a-t-il une faille dans la dimension de nos relations? On peut glisser très vite, hein, plus qu'on ne le croit, vers le repli, l'isolement. Y a-t-il une faille dans ma réaction face aux circonstances adverses? Permettons au Saint-Esprit de nous sonder. Hein? Voilà, je vous invite à fermer les yeux et de prier. Voilà, Saint-Esprit, Seigneur, quel privilège, quelle joie immense que de pouvoir refléter ta gloire, refléter ta lumière étincelante. Quelle joie de pouvoir te ressembler en portant ton caractère, ce fruit de l'esprit qui t'habitait en plénitude. Quelle joie de pouvoir vivre la transformation de notre caractère jusqu'à ce qu'elle soit parfaite le jour où nous te verrons face à face. Viens sonder nos cœurs. Pour nous montrer, là, il peut y avoir une faille dans l'une de ces sources de transformation. Notre relation à la parole de vérité, nos relations humaines, notre réaction face à l'adversité, l'épreuve. Viens restaurer, Seigneur, ce qui était abîmé. Viens combler le vide qui a pu laisser le champ libre à l'adversaire. Viens nous animer d'une bonne volonté pour accueillir ton œuvre de transformation en nous et brille en nous individuellement et en Église d'un éclat plus grand. Et que cette Église soit un véritable phare dans la nuit de ce monde qui se perd. Amen.